votre nouveau rendez-vous sur la Hip Hop Soul Radio. Tous les dimanches avec Lamal à partir de 20h.
Très bonne soirée à l'écoute de la Hip Hop Soul Radio, c'est Lamal El Pistolero pour l'Octogone. L'Octogone, aujourd'hui nous sommes avec le grand, l'unique et le champion du monde de MMA, Monsieur Francis Ngannou, celui qui a dit qu'il frappait les gens pour gagner son argent. C'est exactement ça, non?
Non, qui tape les gens pour vivre.
Voilà, tu tapes les gens pour vivre. Moi, je l'ai modifié à ma sauce parce que cette phrase-là, tu sais que tu aurais pu être rappeur? Parce que ça, c'est une punchline de rappeur.
Pour être rappeur, il faut plusieurs punchlines en tout cas.
Ouais, mais en tout cas, il y a des rappeurs qui n'ont aucune punchline et qui sont rappeurs. Okay. En tout cas, celle-là, là, avec celle-là, tu aurais pu être rappeur. Et franchement, elle était magique, elle était magnifique. J'ai rigolé quand j'ai entendu ça. D'où était venue cette punchline?
Non, au fait, ce n'était pas un punchline, c'est la réalité. Ouais. J'essayais d'être aussi réaliste que possible pour des gens qui sont auprès de qui je suis incompris, tu vois. Voilà, parce qu'il y a eu beaucoup de rumeurs, beaucoup de pleurnicheries, comme quoi je n'ai pas salué des gens ou quoi. J'ai dit, mais moi, je tape les gens pour vivre. Alors, ce n'est pas ne pas saluer quelqu'un qui est un drame. Parlons donc du fait que je tape les gens pour vivre, par exemple. Ouais. Vous voyez, c'est mon métier. Donc.
En tout cas, j'ai kiffé. J'ai dit, non, lui, c'est un génie. J'ai dit, c'est un génie quand j'ai entendu ça. Déjà, moi, vite fait, je voudrais qu'on parle de ton parcours. Parce que dans cette émission, à chaque fois, on parle du parcours de l'artiste ou de l'invité qu'on a. Et là, on a un champion du monde. Donc, j'aimerais savoir ton parcours. Tu as dit que voilà, tu viens du Cameroun, que c'était compliqué pour toi, etc. Comment, raconte-nous un peu ton parcours et comment tu t'es lancé dans la boxe et les MMA.
C'est un peu long le parcours, mais je vais essayer de faire vite. Je suis né au Cameroun, j'ai grandi au Cameroun. Mes parents ont divorcé, j'avais 6 ans, j'ai un peu vécu de gauche à droite. Dès l'âge de 9 ans, j'ai commencé à travailler dans les carrières de sable pour aider à subvenir aux besoins à la maison et aussi me scolariser jusqu'à 17 ans où j'ai laissé l'école, où j'ai abandonné l'école, faute de moyens. Mais le sport de combat, ça a toujours été ma passion depuis tout petit, depuis que je suis depuis tout petit, aussi longtemps que je puisse me rappeler.
Tu te battais dans la rue quand tu étais petit ou pas?
Non, je ne me battais pas. Déjà, il y avait mon père, il était un peu. Mon père, lui, il se battait un peu et il avait une réputation. Et dès qu'ils ont divorcé, moi, j'ai pas aimé. La façon dont les gens parlaient de mon père. Donc, du coup, il était hors de question pour moi de faire ce qu'il faisait ou de devenir comme lui pour qu'on puisse parler comme de moi comme de lui. Voilà. Donc, et dès lors, à partir de ce moment, je me suis battu toute ma vie pour ne pas faire comme mon père. Alors, ça, ne pas combattre dans la rue, par exemple. Mais cependant, j'avais toujours la passion pour tout ce qui était lié à la force et le sport de combat, jusqu'à peut-être l'âge de 13 ans où j'en ai vraiment... Parce que quand je disais sport de combat, je ne savais même pas exactement quel sport. J'aimais le karaté, parce que mon oncle, il était karatéka, ceinture noire, mais mon papa aussi, il était karatéka. J'aimais... on voyait le kung-fu dans les films, donc j'étais passionné de tous les sports de combat. Et la boxe également, mais c'est à 13 ans où je décide donc de... je trouve que la boxe était donc ce que je voulais faire, ce qui devait me permettre de garder une bonne réputation et aussi restaurer mon image auprès de ces
battre,
autres.
De te battre, mais dans les règles de l'art.
Me battre dans les règles
du sport, quoi.
Voilà. Et avoir un salaire et avoir une réputation, voilà. Donc... c'était un peu ça.
On va parler de Cyril Gane, obligé quand même. Il y a le combat, bon, il a fait le tour du monde, la vidéo aussi magique. Quand je dis, t'aurais pu être rappeur aussi dans ton attitude aussi, qui était magique, et que la vidéo qui a fait le tour du monde, où justement tu ne le calcules pas, tu ne lui adresses même pas un regard. Est-ce que c'était calculé ou pas?
Ce n'était pas calculé, c'était spontané, mais déjà de un. C'est un adversaire, c'est pas un ami. Donc, je comprends pas pourquoi deux personnes qui vont se battre, se taper dessus. Là, on est censé entrer dans l'octogone avec l'intention de faire du mal l'un à l'autre. Alors, Je ne comprends pas pourquoi les gens ils sont choqués déjà de ça, bien que ce n'était même pas ça la raison. Mais ça, au moins, à partir de ce moment, ça ne devait pas choquer les gens. On allait se battre dans l'intention de faire du mal l'un à l'autre.
Et c'était quoi la
Donc,
vraie raison alors?
la vraie raison, c'était qu'il était entouré des gens auxquels on n'a pas beaucoup d'affinité.
Ton ancien coach Fernand Lopez?
Oui, lui.
Justement, en parlant de Fernand Lopez, pourquoi tu t'es séparé de lui par rapport à ton combat que tu as perdu contre Miokic ou rien à voir?
J'étais déjà plus ou moins séparé, j'étais déjà aux États-Unis. Donc, j'ai voulu juste l'amener, le garder dans l'équipe, mais apparemment, ça n'a pas donné. Oui, j'ai avancé dans l'intérêt de ma carrière. Parce que, qu'on le veuille ou non, ça, c'est un milieu qui est un peu égoïste.
Égoïste.
Voilà, c'est chacun
Les gens
pour
pensent
sa
qu'à eux.
peau, voilà. Parce que quand tu perds un combat, c'est toi, hein.
Toi et toi tout seul.
C'est toi et toi tout seul. Parce que le lendemain, chacun est retourné à ses activités. C'est toi qui fais des cauchemars pendant des mois.
C'est toi qui
Et
n'arrives pas à
c'est ta
dormir.
carrière qui est en ligne. Donc, pourquoi? Parce que c'est toi le seul responsable. C'est toi qui devais faire le nécessaire
Pour
pour mieux
gagner ou
performer,
pour...
pour gagner. Voilà, donc, tu es le seul. Et ce qui est logique, tu es le seul responsable en ce moment. Donc, cependant, tu es aussi responsable des décisions qui vont te permettre d'améliorer les conditions.
Justement, tu parles de ça. Quand on perd un combat, comment on réagit? Est-ce que des fois on se dit, eh, vas-y, j'ai envie de tout arrêter? Ou on se dit, eh, ce qui me tue pas rend plus fort?
Ça dépend. Une chose est sûre, c'est que quand on perd un combat, on est dégoûté, ça fait mal. Ça fait mal. Et aussi, le regard des gens sur soi aussi, ça fait aussi mal, ça nous influence. Parfois, on a honte de nous-mêmes, on se sent un peu inutile. On est abandonné par certains parce que beaucoup sont là jusque quand on gagne et quand on perd. Au fait, comme on dit,
C'est ingrat.
La victoire a 1 000 pères et la défaite, elle est orpheline. Voilà, donc, bon, et mais je me dis toujours, c'est une bonne chose parce que ça te permet de voir plus,
Ton
d'avoir une
entourage.
sagesse dans le milieu et de comprendre comment les choses y se passent. Il faut ça pour être un combattant mature, pour être un combattant accompli. Il faut avoir toutes ces expériences, tu vois. Donc, et ça nous permet aussi de nous mettre en cause nous-mêmes parce que. Il ne faut pas toujours croire que c'est les autres ont fait ceci. C'est déjà notre propre responsabilité puisque nous sommes les acteurs principaux de notre carrière. Donc, quand quelque chose y va pas, c'est d'abord à nous la responsabilité et à nous de corriger ce qui n'a pas fonctionné pour prochainement avoir des meilleurs résultats.
Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais c'est un sport. Bon, c'est un sport individuel quand même, parce que comme tu disais,
Non,
tu rentres
c'est un
dans
sport
l'octogone,
individuel.
mais il y a quand même l'équipe autour qui. Parce que tu perds,
Mais
quand tu
ça
perds, tu
reste.
perds peut-être seul, mais il y a quand même tes gars qui sont aussi. Parce que je sais, par exemple, que demain un combattant il rentre, il peut écouter les consignes de son coach qui sont derrière, et peut-être les consignes de son coach ne sont peut-être pas les bonnes au bon moment, et que le combattant l'applique, et qu'au final c'était pas ça, et il aurait dû s'écouter lui-même.
Voilà,
Donc
exactement. Mais faut savoir que beaucoup de choses dans le combat se joue plus dans les réflexes, l'improvisation. Déjà, il n'y a aucun combat où on dit, allez, tu entres, tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu mets l'autre KO. Non, ça n'existe pas. C'est juste au cas où tu es coincé, tu as dos au mur, il y a une minute,
solution à
il y a
trouver.
2 secondes d'arrêt, de pause, tu réfléchis. En ce moment, ton équipe a envoyé une information à cause du regard extérieur qu'ils ont ou un conseil que toi, étant fatigué, ton cerveau ne fonctionnant plus
À ce
à
moment-là,
100%,
il est plus
peuvent
lucide.
être utiles. Voilà, ils sont plus lucides que toi en ce moment. C'est là où intervient le plus l'équipe. Parce que à un certain moment, le cerveau n'est plus aussi lucide qu'au
Bien
départ.
sûr.
Déjà, avec la montée de l'adrénaline et tout ça, l'efficacité diminue.
Justement, ça t'a fait quoi la première fois quand t'es rentré dans un octogone? Est-ce que l'adrénaline a pris le dessus sur toi et la pression? Ou T'as oublié tout ce qui se passe autour parce qu'il y a des joueurs, par exemple, de foot, ils disent des fois, hey, quand je rentre sur le terrain, j'entends même plus le public.
Ouais. Non, la plupart des temps, déjà, moi, quand je suis dans l'octogone, j'entends pas mon équipe. Là, pour la plupart des temps, j'entends pas. Il faut me calmer. Au fait, ce n'est que récemment que j'arrive parfois à les entendre. Et parfois, quand je les entends, tellement le son de leur voix est lointain que j'arrive pas à me connecter à ça. Ouais. Donc, et tout ça, je pense que c'est dû à l'adrénaline.
Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Au niveau de la défense de ton titre, parce que tu es champion du monde, comme je l'ai dit et répété, c'est un truc de ouf, quand même, parce que ça, tous les sacrifices, j'imagine, que tu as dû faire dans ta vie, etc., pour arriver à cette ceinture-là, doivent être magnifiques et magiques. Et quand il y a cette récompense-là, ça doit être un plaisir de ouf. La défense de ton titre, tu parlais de Tyson Fury, par exemple, de boxe anglaise, etc. Est-ce que tu vas te privilégier vraiment sur la défense de ton titre et peut-être faire un John Jones ou un Cyril Gane? Ou peut-être un Miokic encore comme on disait tout à l'heure, ou te mettre dans la boxe et aller voir Tyson Fury.
Pour l'instant, tout est encore possible parce que les négociations avec l'UFC n'ont pas encore abouti. Mais une chose est sûre, c'est que j'aimerais quand même boxer à un moment de ma carrière. D'ailleurs, pas plus tard que maintenant. Donc, à l'UFC de voir, ça sont des options que j'ai proposées à l'UFC, à eux de voir s'ils pensent que c'est quelque chose qui est faisable et aussi, surtout, s'ils pensent qu'il est aussi possible d'échanger les clauses du contrat parce que ce genre de contrat, moi, je ne signerai plus jamais. Et c'est la raison pour laquelle je me suis autant battu pour sortir de ce fameux contrat d'esclavagiste.
C'est bien ce que tu dis parce que c'est vrai que Dana White, le président de l'UFC, c'est ce que je disais, c'est que tu es un combattant à l'intérieur de l'octogone et aussi à l'extérieur parce que tu combats. Tu disais que c'était un sport égoïste, mais tu ne l'es pas si égoïste que ça parce que tu te bats pour les combattants de l'UFC ou les combattants de MMA quand même au niveau de leur salaire, etc., de leur rémunération. Et ça, c'est tout à ton honneur. C'est
Après,
fort.
je dirais plutôt que notre sort il est lié. Ça, déjà, c'est un atout parce que j'aimerais. C'est quand même un sport que j'ai aimé, que je pratique. Et j'aimerais aussi, moi, mon tour, un jour, dire j'ai contribué à ce sport comme certains, ils ont contribué pour que nous, on en bénéficie de ça aujourd'hui. Parce que je suis sûr qu'au départ, ce n'était pas ce que ça en est aujourd'hui. Et j'aimerais que demain, que ce ne soit pas ce que ça en est aujourd'hui, grâce aussi à moi.
C'est fort en tout cas. Juste deux, trois petites questions. Le plus surcoté pour toi?
Le plus surcoté,
Ouais.
ça je sais pas. Déjà, je ne vais pas me permettre de dire que les gens ils sont surcotés. Je pense que certains sont moins cotés.
Et sous-coté donc? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'exposition qu'ils méritaient d'avoir.
L'exposition qu'ils méritaient d'avoir, je pense déjà, je commence par un cas particulier qui est dans la catégorie des poids lourds. Il y a Curtis Blade. Je pense que Curtis Blade est très sous-coté. Surtout, je ne sais pas pourquoi, mais il va pas trop, il n'est pas trop dans les faveurs de l'organisation. Et comme lui, il prend pas aussi beaucoup d'initiatives, bon, son sort dépend de ce que l'UFC décide. Voilà, il n'a pas le contrôle de de la narrative, comme on dit.
Est-ce que tu as un rituel avant chaque combat et après chaque combat?
Pas vraiment. Pas vraiment de rituel, peut-être écouter la musique.
Parfois pas. Et après le combat, juste, tu vois, relâcher la pression.
Ouais.
Et pour certains, ça veut dire faire la fête, mais pour moi, juste aller dormir, juste en me disant, oh, je suis libre. Tu vois, c'est ce sentiment de liberté après le combat. Parce que la préparation nécessite beaucoup de discipline et beaucoup de stress, de pression, tu vois.
Ouais,
Ouais.
ça doit être prenant et fatigant en fait, que ce soit
Très fatigant.
moralement et physiquement. Si tu avais un dernier mot à nous dire. Ah oui, quel genre de musique tu écoutes? Comme tu disais, tu écoutes de la musique, on est
Ah,
sur Génération, donc on va parler musique.
j'écoute plus de musique africaine.
Camerounaise? Pas que.
Camerounaise, Afrobeat. J'aime beaucoup, il y a des musiciens en Tanzanie maintenant qui font gaffe. Il y a la Tanzanie, le Nigeria qui est toujours au top.
Les
La Côte
Ivoiriens là.
d'Ivoire,
Ouais, Côte
ouais.
d'Ivoire. Ouais.
Et pas mal d'artistes français aussi.
Ah oui?
Ouais.
Comme qui?
Comme Dadju.
Ah,
Avant, c'était Maître Gims, maintenant c'est Dadju. Mm. Depuis que j'ai découvert Dadju, je pense qu'il a un peu surclassé Maître Gims. Dans...
Ah ouais, carrément. Non, ok, d'accord. Non, ouais. Mais c'est vrai que Dadju, il est super fort en tout cas. Ouais. Si tu avais quand même un dernier mot à nous dire, monsieur le champion du monde Francis Ngannou, ça serait lequel?
Un dernier mot?
Ouais.
Tu vas où toi? Tu vas mourir?
Comme tout le monde.
Bah, en tout cas, moi j'ai l'intention de vivre. Donc ce que je vais dire maintenant ne serait qu'un autre mot.
Mm.
Après, ça dépend de ce que tu veux. Est-ce que tu peux me donner une orientation?
Bah, un mot à, par exemple, une personne qui veut se lancer dans le MMA, si tu avais un mot à lui dire.
Oh, comme tout le monde, c'est pas facile. Faut savoir que là, c'est la galère. Faut se préparer à la galère. Parce que j'aimerais dire, oui, il faut travailler, il faut ceci. Ce qui est vrai, mais ce n'est pas une garantie, tu vois.
Mmh.
Donc,
il faut aussi du talent quand même.
Voilà, il faut de la volonté. Mmh. Le talent... Je pense que la volonté et la détermination surpassent le talent.
Mmh.
Ouais, parce que le talent à lui seul n'a jamais rien fait.
Voilà, vous avez entendu ce qu'il a dit. Le talent à lui seul n'a jamais rien fait. Il faut bosser d'arrache-pied pour pouvoir y arriver. C'est comme ça. En tout cas, merci Francis de nous avoir reçus dans cet magnifique hôtel. Franchement, ça fait plaisir de nous avoir accordé un peu de temps parce qu'on sait que tu es pressé en plus.
Ok, merci. Et tu es sollicité. Beaucoup.
Donc, bonne soirée, merci, monsieur le champion du monde.
Au revoir.
À la prochaine.
Génération Hip Hop Soul Radio.